aujourd'hui mercredi. Nous sommes en compagnie de d'Anne-Françoise Meckenstock et de Vera Teremissinoff, toutes les deux membres de l'association de soutien aux nations amérindiennes, l'ASNA. Vera, vous venez de nous parler de ces écoles de survie qui visent à faire ressurgir et maintenir vivante la tradition, la vie culturelle indienne d'Amérique du Nord. Très concrètement, en quoi ça consiste ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qu'est-ce qui fait de ces écoles vraiment une particularité indienne ?
Eh bien, une particularité indienne, c'est déjà qu'elles ont été créées, qu'elles sont menées par les Indiens eux-mêmes, qui n'avaient pas forcément une formation d'enseignant, mais qui a traditionnellement, enfin, pour nous, mais qui avaient des connaissances à transmettre. Et ces écoles de survie sont bien évidemment pas soutenues par le gouvernement, c'est-à-dire qu'elles doivent vivre elles-mêmes. Et elles ne demandent la charité. Mais c'est vrai que ces écoles manquent de tout. On a reçu dernièrement une liste de demandes de matériel pour une de ces écoles. Et ça va vraiment du papier et des crayons jusqu'à une provision d'eau par jour. Enfin, c'est un manque total. Et ce qu'on aimerait, disons, l'ASNA aimerait l'année prochaine axer beaucoup son soutien sur ces écoles de survie, parce que nous croyons à tout ce qui est possible de faire avec les enfants, à travers les enfants, mais de voir ça sous une optique vraiment d'échange, et surtout pas de charité, mais d'un réel échange, et c'est aussi ce que les Indiens souhaitent.
Est-ce que ces écoles sont plus particulièrement dans les réserves, ou par exemple on en trouve aussi dans les grandes villes, puisqu'on parlait tout à l'heure?
Non, elles sont dans les réserves.
Elles sont sur les réserves.
Oui, sur les territoires des réserves.
Par exemple, l'apprentissage des langues, j'imagine, parce que même pour un fait aussi médiatisé que le film Danse avec les loups, on a découvert que les acteurs indiens disaient ne pas savoir parler la langue et qu'ils avaient dû l'apprendre pour pouvoir
Et ça, c'est une grande souffrance que j'ai rencontrée chez beaucoup d'Indiens d'Amérique du Nord, de ne plus parler leur langue, la langue de leurs ancêtres, parce que très souvent, c'était aussi une des tactiques utilisées par le gouvernement, on enlevait les enfants à leur famille pour en faire de bons petits Américains dans des écoles américaines, dans des boarding schools.
Souvent religieuses, en prime, en plus.
Oui, et ces enfants perdaient vite l'usage de leur langue. Et moi, j'ai eu beaucoup d'amis indiens d'Amérique du Nord qui réapprenaient leur langue et pour qui c'était vraiment une souffrance de ne plus la comprendre ou la parler. Donc, c'est une des priorités de ces écoles de survie, parce que c'est bien connu, quoi. La vie d'un peuple, c'est en grande partie sa langue. Et une des priorités des écoles de survie, c'est justement d'enseigner la langue des Indiens.
Mais il n'y a pas une langue des Indiens, donc il y a bien langues liées à chaque tribu.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'ils se comprennent les uns avec les autres ?
Là, c'est pour ça, disons, bon, là, ils utilisent l'anglais aussi pour se comprendre les uns envers les autres. Avant la colonisation, ils avaient ce langage des signes qui est connu. Beaucoup de gens ont cru que c'était les Blancs qui avaient inventé ça pour communiquer avec les Indiens, ou les Indiens avec les Blancs. Mais en fait, c'était les Indiens qui possédaient ce langage par signes pour communiquer de tribu à tribu, parce que les langues étaient souvent très différentes sur des territoires assez petits. Pour vous donner une idée, il y avait 300 langues différentes.
Oui, je crois déjà rien que dans un territoire d'une tribu, il y a même déjà
des
différences
États-Unis, à l'intérieur d'une tribu.
Voilà. On parle de ce maintien de la tradition la plus vivante, de la culture vivante, et qui ne soit pas seulement une chose de musée, mais une chose qui vit chaque jour. Et puis, il y a cet aspect très international dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est la reconnaissance de ce que sont les nations amérindiennes à l'ONU. C'est, j'imagine, deux axes très importants pour les Indiens. Est-ce que c'est une parmi tant d'autres, cette lutte à l'ONU, ou bien c'est une chose très importante ?
Non, c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas sur laquelle les Indiens avaient misé énormément. Je dis « avaient misé », et je vous expliquerai ça pourquoi dans un moment. Mais en tout cas, c'est en 1977 que la première délégation indienne, qui était le International Indian Treaty Council, Conseil international des traités indiens, est entrée à l'ONU, à la sous-commission des droits de l'homme, comme organisation non gouvernementale. Parce que, évidemment, les Indiens n'étant pas reconnus comme nation, ne peuvent entrer que par le biais des organisations non gouvernementales. Et c'était une très forte délégation d'une centaine de personnes. Et je me rappelle, j'ai assisté à cette entrée des Indiens à l'ONU et au début des conférences, enfin des travaux de la sous-commission des droits de l'homme. Et c'était vraiment un enthousiasme et un espoir, surtout un espoir absolument énorme de sortir de leur isolement, d'être reconnus sur la scène internationale, d'être reconnus en tant que nation. Des travaux ont commencé en 1982 pour la rédaction d'un texte sur les droits des peuples autochtones. Et les délégations sont venues régulièrement depuis chaque année, à l'époque où se font ces travaux de la sous-commission, c'est-à-dire en février et en juillet de chaque année. Mais je dois dire que depuis quelque temps, on sent des désillusions. Parce que il est vrai que les gouvernements, et particulièrement le gouvernement des États-Unis, ont mainmise sur beaucoup de secteurs à l'intérieur des Nations Unies, et que le texte, s'il est signé, est-ce qu'il donnera vraiment aux Indiens ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire vraiment la reconnaissance internationale à laquelle ils ont droit, tout simplement.
Parce que quels sont le type de débats qui ont lieu dans cette sous-commission, justement lorsque les Indiens demandent à être reconnus comme nation? Parce qu'on sait que, par exemple, les Tibétains n'ont encore jamais réussi à faire poser leurs questions, ou très difficilement, parce que la Chine fait blocus sans arrêt. Est-ce que les États-Unis n'ont pas fait blocus aussi chaque fois qu'ils désiraient poser la question de leur existence?
Ah, ça, c'est évident que ces gouvernements font barrage, c'est évident. Ce texte permettrait, disons, s'il y avait ratification de ce texte sur les droits des peuples autochtones de la planète, donc il ne s'agit pas seulement des Indiens d'Amérique, mais aussi des Maoris de Nouvelle-Zélande, des Aborigènes d'Australie, etc. Donc vous voyez combien de gouvernements sont concernés, qui ne voient pas ça avec plaisir, parce que ce texte permettrait aux peuples autochtones d'interroger leur gouvernement dans le cadre des Nations Unies. Et ce serait quand même un outil, une arme très importante. Donc il est clair que ces gouvernements font barrage et tentent d'arriver à une édulcoration du texte au maximum.
Est-ce que ce que revendiquent ces nations, c'est d'être une sorte d'État dans l'État dans chacun des pays où aujourd'hui ils doivent exister?
Pas forcément, disons, ça dépend des réalités sur place. Par exemple, on a parlé maintenant du cas des Indiens des États-Unis qui sont presque 2 millions, mais il y a des pays en Amérique du Sud où les populations indiennes sont majoritaires. Si vous pensez au Pérou, à la Bolivie, Guatemala, Équateur... C'est incroyable que ces populations indiennes, qui sont en nombre majoritaire, n'aient pas accès aux décisions gouvernementales. Alors, le cas de figure peut varier suivant les réalités du contexte. Mais la demande, c'est un droit à la reconnaissance en tant que nation et un droit à la terre. Ça, c'est ces deux droits qui vont ensemble, qui sont indéliables, on ne peut pas les séparer.
On dit qu'à l'ONU, une nation, c'est un peuple qui a un territoire, une armée, un gouvernement, puisqu'on parlait de cela à propos des Palestiniens, par exemple.
Oui, alors en tout cas, un territoire, je veux dire, c'est la base. Le droit à la terre est la base. Et c'est bien dans ce sens que travaillent les nations amérindiennes qui viennent ici à Genève, à l'ONU. À ce propos, j'aimerais signaler que l'année dernière, on avait organisé une marche de soutien à ces délégués, parce que souvent la population genevoise ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'ONU. Et on s'était dit, enfin, qu'il se passe là avec ces travaux sur les droits des peuples autochtones, quelque chose quand même de tellement important qu'il faut que la population genevoise, du pays, de la Suisse, le pays hôte soit informé, et puis aussi que ces délégués amérindiens qui sont à l'ONU sentent un soutien de la part de l'extérieur. Et on avait organisé une grande manifestation, une grande marche qui partait de la gare jusqu'au Palais des Nations. Et cette année, on refera cette marche, mais dans le cadre d'un événement plus large qui a été organisé par une association qui s'est créée pour ça à Genève, qui s'appelle les Peuples indigènes de Genève, c'est ça, et qui a regroupé beaucoup d'associations, dont la nôtre, donc nous participerons, pour créer un événement sur la plaine de Plainpalais pendant les deux dernières semaines de juillet, au moment où justement les délégations amérindiennes seront à l'ONU. Et certains de ces délégués viendront s'exprimer sur la plaine de Plainpalais. Il y aura des spectacles, il y aura des stands d'information, et tout ça se passera pendant toute la durée des travaux aux Nations Unies.
Et cette marche de cette année aura lieu le 24 juillet, le vendredi 24 juillet, départ de Plainpalais à midi, direction l'ONU.
Donc vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas si vous l'avez sous la main en nous écoutant. 24 juillet, midi, pleine de Plainpalais. On le rappellera tout à l'heure. Alors déjà, vous savez qu'il vous faut aller chercher votre agenda. Peut-être pour conclure cette partie sur quelles sont les actions et les luttes que mènent aujourd'hui les Indiens, aussi bien d'Amérique du Nord que d'Amérique du Sud, parce que là, je pense qu'ils luttent vraiment conjointement. Il est bien sûr le point de ce 500e, soi-disant, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Quelle résonance a cet événement pour les Indiens? Voyons s'il y a une différence entre les Indiens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.
Alors cet événement, les Indiens l'ont vu évidemment comme presque une agression, de fêter l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, la découverte, la soi-disant découverte de l'Amérique. C'est une insulte. On évalue les morts amérindiens sur le continent depuis la conquête à une fourchette, disons, entre 70 millions et 90 millions de personnes. C'est incontestablement le plus grand génocide de l'histoire. Et comment fêter ça? Comment fêter cette découverte? Et puis les Indiens ne se sentent pas du tout découverts. Eux, ils étaient là, ils existaient depuis des milliers et des millions d'années. Alors, il y aurait pu y avoir éventuellement une rencontre. Mais il est clair que cette rencontre a été ratée, et bien de la faute des Blancs.
Alors, est-ce qu'ils vont... Bon, on sait très bien, ils l'ont annoncé, qu'ils ne vont participer en aucun cas, et ils vont même boycotter toute manifestation officielle. Mais alors, est-ce qu'ils vont, eux, lancer un certain nombre de manifestations de leur point de vue?
Mais pour eux, oui, bien sûr, il y a eu des marches en Bolivie, entre autres, par exemple. Et puis, bon, c'est clair que les Indiens ne participeront pas, en tout cas dans leur grande majorité, à ces festivités. Et puis qu'ils prépareront des contre-manifestations ou des protestations. Et puis c'est l'occasion aussi pour eux de faire connaître leur point de vue. Et ça, ils ne s'en privent pas, ils ont bien raison. Et par exemple, une manifestation qui est préparée, c'est pour le 12 octobre, où les répliques des trois caravelles de Christophe Colomb doivent arriver dans la baie de San Francisco. On se demande pourquoi San Francisco. Et là, les Indiens leur préparent un chaleureux accueil.
Donc finalement, pour eux, c'est quand même l'occasion de reparler de leur réalité. Les gouvernements ne se sont-ils pas trompés quelque part en organisant ces grandes festivités? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre eux d'une façon ou d'une autre?
Alors oui, à la limite, ils auraient mieux fait peut-être de ne rien faire du tout, parce que ça a été effectivement l'occasion d'une réponse assez forte et qui permet justement de bien mettre en relief... La réalité de cette conquête, de cette invasion, qui était le besoin pour l'Europe d'aller se chercher des richesses, et les soi-disant terres vierges découvertes étaient en fait des terres habitées par des nations souveraines, des nations qui avaient une histoire au moins aussi ancienne que celle de l'Europe. Donc l'histoire du Nouveau Monde, c'est de la rigolade.
Est-ce que ici en Europe, il va se passer quelque chose de particulier de soutien aux Indiens, dans le sens, à part les festivités que l'on connaît déjà, qui ont eu lieu soit en Espagne, soit ailleurs, et est-ce qu'il va y avoir justement des contre-manifestations aussi en Europe,
hein? Oui, alors ça, il y en a dans chaque pays, dans tous les pays européens, des groupes se sont formés pour réagir contre cet anniversaire. On peut citer par exemple quelque chose d'assez exemplaire, c'est une petite ville, une moyenne ville, je ne sais pas exactement le nombre d'habitants, donc disons moyenne ville, près de Séville, qui s'appelle Puerto Real, dont le maire est le seul maire d'Espagne à avoir contesté ces festivités du 500e, et qui offre même la construction d'un monument dans sa ville aux victimes du génocide.
Donc il y a heureusement des Espagnols qui sont conscients des méfaits qu'on...
Particulièrement des Basques et des Catalans, il faut dire, mais aussi, aussi d'autres...
Comme par hasard.
Mais aussi d'autres Espagnols.
Voilà, alors je vous propose, si vous êtes d'accord, Vera et Anne-Françoise, d'écouter une chanson qui, je crois, évoque les femmes, puisque dans la suite de notre émission, avec Anne-Françoise en particulier, nous allons, cette fois-ci, revenir sur notre spécificité dans Remue Ménage, qui est celle d'évoquer la vie des femmes, et comme je l'avais tenté dans les trois premières émissions, d'évoquer la vie des femmes d'Amérique du Nord. Anne-Françoise, vous connaissez en plus des femmes qui, aujourd'hui, continuent à se battre, comme Mary Crow Dog, dont on évoquait le destin dans La Cota Woman, qui se battent toujours. Alors, c'est surtout de ces femmes d'aujourd'hui dont nous allons parler dans quelques instants. Then is no 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 no. Let me wrap you in my blanket, stand together on the hill, feel the love between us on this night so peaceful and still. Let me sing my love for you, oh woman. Let me sing my need for you, oh woman. Denish na na. By me, my woman, these days shining at our door. Come to me, my woman, a new life has begun. Let me sing my love for you, oh woman. Let me sing my need. Oh, you, oh, woman. Then is na na. Sit by me, my woman, come and braid my hair. Let me sing my love for you, oh woman. Let me sing my need for you, oh woman. Denish na na. Thank you. Alors Vera, je crois que nos auditrices pourraient, elles, toutes mettre un visage sur l'homme qui vient de chanter. Parce que c'est quelqu'un en fait de très connu qui chante là.
Oui, il s'agit de Floyd Westerman, dont le nom indien est Red Crow, c'est-à-dire Corbeau Rouge, et qui est un membre, un militant de la première heure du mouvement indien américain, et qui est chanteur. Et qui est en même temps connu maintenant en Europe parce qu'il a joué un rôle dans le film Danse avec les loups. Il joue le rôle du chef d'Isours.
Donc le vieux chef.
Le bon, vieux chef.
Si jamais nos auditrices n'ont pas retenu les noms des protagonistes, mais sûrement elles ont retenu le visage du vieux chef indien dans Danse avec les loups.
C'est un petit peu vieilli pour le film.
Et alors cette chanson est une histoire d'amour, une chanson d'amour puisqu'il dit viens, je te chante mon amour pour toi. Enfin, c'est une, oui. Vous qui la connaissez très bien, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi elle cause, parce que
bien,
vous avez l'air
d'être. C'est une invitation à la femme qu'il aime de venir avec lui dans sa couverture, s'envelopper dans sa couverture, parce que c'est aussi un symbole du couple. De s'envelopper dans la même couverture, rouge en général.
Alors Anne-Françoise, vous avez plein de choses à nous raconter aussi à propos des femmes nord-américaines. Vous connaissez bien cette histoire et le petit peu que j'ai pu raconter jusque-là n'empiétera sûrement pas sur tout ce que vous avez à nous raconter. Alors il y a d'abord une chose que vous aimeriez poser au point de départ, c'est le rôle de la femme dans la vie traditionnelle indienne, mais qui vient de bien avant la réalité des pieds sur terre.
Exactement, c'est déjà la cosmogonie. Indienne, c'est presque toujours la femme qui est au début et au commencement de tout. Et même, ils disent, au commencement était la pensée et son nom était femme. Et j'aimerais mentionner un livre de Paula Gunn Allen, The Sacred Hoop, donc le cercle sacré, qui donne énormément d'informations. Elle a fait beaucoup de recherches dans tous ces domaines et sur la vie actuelle aussi des femmes. Alors, elle nous dit par exemple, la mère, la grand-mère, reconnue depuis les temps les plus reculés, est présente dans les structures sociales, l'architecture, la loi, les coutumes et la tradition orale. C'est à elle que nous devons la vie et c'est d'elle que nous tenons notre endurance. Malgré toutes les attaques concertées contre nous, contre elle, depuis 500 ans de colonisation. Elle est la vieille femme qui nourrit les feux de la vie. Elle est la vieille femme araignée qui tisse sa toile, qui nous unit dans un tissu d'interrelation. Ça, c'est un concept très important dans la vision du monde des Indiens. C'est l'interrelation de tout ce qui vit, que ce soit le règne minéral, animal, végétal et l'homme, et le cosmos. Tout ça ne fait qu'un. Cette vieille femme araignée est la plus ancienne déité, celle qui se souvient et qui rassemble. Et bien que l'histoire des 500 ans passés ait appris aux femmes, enfin au peuple indien, l'amertume et une rage d'impuissance, leur endurance se retrouve dans le présent. Ils sont bien vivants et au fond d'eux-mêmes certains de leur signification et justement de cette réalité du cercle de vie. Parce que vous savez certainement que le cercle est à la base de toute conception religieuse et même de la vie quotidienne de l'Indien, même aujourd'hui. Et un cercle dynamique, pas un cercle mort.
Une spirale même parfois, non?
Oui, mais c'est quand même le... Oui, spirale, bien sûr, ça se retrouve au fond chez tous les peuples dits primitifs. Mais c'est vraiment le cercle chez l'Indien.
Et est-ce que, alors, la femme qui joue un rôle si important dans la cosmogonie indienne retrouve cette importance dans sa vie quotidienne? Parce que, bon, le peu de choses que j'ai évoquées tout à l'heure semblaient dire que, malgré tout, les femmes ont un rôle difficile à tenir dans la vie de la tribu. Oui, même si elles ont des rôles très importants, reconnus comme étant essentiels.
Vous entendez extérieurement ou bien
au sein, dans la vie quotidienne, au sein de la tribu?
Oui, je crois que dans les temps passés, c'était beaucoup de tribus reconnaissaient, bon, plus que d'autres, le rôle absolument capital de la femme et avaient un très grand respect pour la femme. Et je pense que vous savez que les Mohawks, encore aujourd'hui, ont un respect plus tangible pour l'opinion de la femme, pour ce qu'elle fait. Et là, j'aimerais beaucoup vous donner lecture d'un petit passage de la constitution de la Ligue iroquoise, la Ligue des Six Nations iroquoises, dont les Mohawks font donc partie. Alors, il est dit, la descendance en ligne directe du peuple des Cinq Nations, parce qu'au début, ils étaient cinq, c'était au début du 18e, se fera de façon matrilinéaire. Les femmes seront considérées comme les ancêtres de la nation. Elles seront les propriétaires de la terre et du sol. Les hommes et les femmes auront le rang social de leur mère. Et cette grande loi de la paix dit aussi « on est ce qu'est sa mère ». Ce qu'on apprend de son père et qui est d'une autre nature ne vient que plus tard. La transmission de la culture se fait par les femmes qui relient le passé à l'avenir. Et ça, c'est encore vital aujourd'hui, puisque c'est ce qu'ont compris les femmes actuelles. Je vous raconterai quelques exemples, donnerai quelques exemples tout à l'heure.